Oui, Mireille de Rennes. Bravo pour votre émission sur le vin. J'ai trouvé ça très rigolo parce que c'est le mois sans alcool. C'est plutôt pas mal. Et puis, mon fils est œnologue et le vin m'accompagne à chaque repas avec modération. Bravo à tous pour votre émission que j'adore.
Bonjour, c'est Eric des Yvelines. Moi, j'ai une question, un sujet que j'aimerais que vous puissiez aborder et éclaircir. C'est concernant les PNR, donc les parcs naturels régionaux. Moi, je parle pour ma paroisse, je dirais, pour ce qui est du parc national régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. C'est un endroit où c'est censé être préservé. Maintenant, aujourd'hui, quand on regarde les constructions qu'il y a partout, il y en a, je dirais, des dizaines et des dizaines. C'est des choses qui peuvent se faire également dans les bois où on, ça dérange pas de déboiser plusieurs milliers de mètres carrés sans problème. Donc, je serais curieux. Un PNR, pas de PNR, qu'est-ce que ça change? Quelles sont les obligations? Allez, merci et continuez. À plus tard.
Bonjour, ici Laurent Ménalier, je suis vigneron à Fitou. Concernant mon intervention, je ne laisse pas tomber la vigne, je ne laisse pas tomber le vin et surtout aussi mes clients. Je suis sur une diversification que j'engage grâce à l'agence de l'eau. On mène des essais sur de l'origan, sur du romarin, sur de l'aloe vera. Et je vais même développer cette activité-là parce que les terroirs qu'exploitaient mes grands-parents, mes arrière-grands-parents ne sont plus adaptés. Mais je n'abandonne pas. Il y a encore de nombreuses possibilités et un paysan ne baisse pas les bras facilement. Voilà. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à Millésime Bio. Comme ça, vous découvrirez aussi Noé. À très bientôt.
Bonjour, c'est Lucie d'Avignon. Salut la Terre au carré. Je viens vous parler de notre scope, l'entrepôt que nous avons fondé à quatre, Isabeau, Céline, Lucie et Lionel. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous achetons des légumineuses, du riz, des pâtes, de l'huile chez nos producteurs locaux, donc Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Gare. On livre des professionnels, des épiceries, la restauration collective, des restaurants. Et on repart de chez nos clients avec leurs biodéchets et forcément leurs contenants à laver. Ensuite, on apporte les biodéchets à nos producteurs qui en font du compost et nous lavons les contenants dans notre atelier. La boucle est bouclée, de la fourche à la fourchette et retour à la terre, bio, local, circulaire et économe en ressources. Vous pouvez suivre notre actualité sur Facebook et Instagram, l'entrepôt Avignon. À bientôt, merci.
Bon, je suis Pierre de Pluinec, là j'appelle après l'émission sur la vigne là, que j'ai trouvé très intéressante. Simplement, je voulais indiquer à la personne qui est intervenue que le vignoble breton existe déjà en Loire-Atlantique, autour de Nantes, car Nantes est la capitale historique de la Bretagne. En fait, tous les vignerons, qu'ils soient de Loire-Atlantique ou du reste de la Bretagne, se battent pour la même chose, la reconnaissance du label vin breton. Ça ne se limite pas à 20 hectares. Merci.
Et en tant que Nantais, je dis vive le muscadet. Merci pour vos messages. Merci à Eric qui nous suggère également de creuser le sujet sur les parcs régionaux. Très bonne idée pour une future terre au carré. Et en attendant, je vous redonne bien sûr le numéro de téléphone du répondeur 01 56 40 45 45. Notez-le bien, c'est le vôtre. Dans les années 30, les loups étaient considérés comme des animaux éradiqués en France. Et puis progressivement, ils ont réapparu sur notre territoire. Aujourd'hui, Canis lupus fait la une de la presse en étendant sa présence à des régions comme l'Île-de-France ou la Normandie. Et les spécialistes le disent, la tendance globale est à l'augmentation démographique et géographique du loup. Il s'agit principalement de loups solitaires qui sont capables de parcourir jusqu'à 80 km par jour à la recherche d'un partenaire ou de nourriture. Mais qu'est-ce qui explique que de plus en plus de loups reviennent dans des lieux où on ne les avait pas vus depuis plus d'un siècle? Et quelles sont évidemment les conséquences de la présence de ce prédateur? Eh bien, c'est le dossier cet après-midi de la Terre au Carré. Et pour en parler, nous sommes en studio avec vous, Farid Benhamou, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes géographe, chercheur associé au laboratoire ruralité de l'Université de Poitiers. Vous êtes enseignant en classe préparatoire et cofondateur du collectif Gâteau, géographie, animaux non humains et territoires. Et puis en duplex des studios de France Bleu Hérault à Montpellier, Pierre Jouventin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes éthologue, écologue, directeur de recherche émérite au CNRS, où vous avez dirigé pendant 13 ans un laboratoire d'écologie des animaux sauvages. Vous avez même adopté un loup pendant 4 ans, vous allez nous en parler. Et vous êtes l'auteur de ce livre « Le loup, ce mal-aimé qui nous ressemble », qui est sorti l'année dernière aux éditions Humaine Science. On se retrouve donc dans un instant pour parler de cette présence en France métropolitaine du loup. Vous allez répondre aux messages, aux questions, témoignages des auditeurs sur la page de la Terre au Carré, les réseaux sociaux et l'application France Inter avec vos notes vocales qui arrivent déjà. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passe au vert à 14h30.
Avec une méthode de pêche qui date du Moyen-Âge et qui fait largement polémique, le chalut de fond. Si vous avez mangé du cabillaud à midi par exemple, vous pourriez être concerné.
Voilà pour le sommaire de cette émission. Valérie Ayestara la réalise. Le dossier a été préparé par Chantal Le Montagnier et Clément Vuillet est à la technique.
Mathieu Vidard. La Terre au carré. Sur France Inter.
Le 11 novembre dernier, un chasseur prend l'animal en photo et poste son cliché sur les réseaux sociaux. Des spécialistes se rendent sur place et authentifient la présence du loup, comme l'explique Loïc Aubled, directeur général délégué de l'Office français de la biodiversité.
Alors en fait, il y a l'ensemble des caractéristiques qui font qu'on arrive à voir à partir de la photo que c'est bien un loup et pas un chien. Ça va des pattes, du pelage à la morphologie.
Dans la région, c'est la première fois depuis près d'un siècle que la présence du prédateur est officialisée. Pourtant, selon Jean-Luc Valéry, président de l'Observatoire du loup, cela fait plusieurs années que l'animal est de retour en Île-de-France.
On a fait des relevés de piste depuis 2017 à plusieurs reprises en région parisienne. Il y avait bien du loup. Il est en train de zoner entre Évreux et Gisors et il va acquérir les potentiels nécessaires pour éventuellement passer à la phase d'installation adaptative.
Selon les spécialistes, l'animal n'est pas une menace pour l'homme. En revanche, les troupeaux peuvent être la cible d'attaque.
Document BFM TV, c'était en novembre dernier avec Loïc Aubled, que vous entendiez également, directeur général de l'Office français de la biodiversité. On a vu donc ces gros titres dans la presse ces mois derniers avec le retour du loup dans l'ouest de la France, aux portes même de Paris. Sont-ils d'ailleurs si nombreux? Pourquoi l'aperçoit-on dans des départements? On ne l'avait pas vu depuis des lustres. Bref, comment revivre avec des loups? On fait le point avec nos invités. Farid Benhamou, je voulais y réagir à ce qu'on venait d'entendre. Pourquoi ?
Non, c'est juste qu'il était question de Jean-Luc Valéry, qui n'est pas vraiment un expert, on va dire, reconnu, qui dit des choses intéressantes, mais comme il part du principe qu'il voit des loups là où il n'y en a pas, et vu les dynamiques de colonisation de loups dont vous parliez vous-même, un loup fait 80 km, il finit toujours par avoir raison de toute manière.
Ouais. Est-ce que vous confirmez quand même cette tendance donc qui est à l'augmentation à la fois du nombre de loups et de leur étendue géographique sur le territoire? Qu'est-ce qu'on peut dire à ce niveau-là alors?
Ah oui, ça c'est tout à fait... je dirais même que c'est normal et c'est pas étonnant. On a des records de loups qui ont fait plus de 1000, 1500 km. Il y a même un loup qui est parti de Slovénie qui a fait 2200 km. Donc à l'heure actuelle, n'importe quel territoire en France peut être fréquenté par un loup, ça ne veut pas dire qu'ils vont s'installer.
Ouais. Pierre Jouventin, est-ce qu'on sait combien il y a d'individus sur le sol français en métropole aujourd'hui? Et comment est-ce qu'on arrive à compter le nombre de loups?
Bien, c'est pas facile, évidemment. C'est plus facile de compter les moutons que les loups. Et de toute manière, tous les animaux sauvages sont difficiles à compter. Par exemple, on ne sait pas en France s'il y a 1 million ou 2 millions de sangliers. Donc, c'est pour vous dire l'évaluation actuellement, on vous dit 624, mais l'intervalle de confiance est entre 400 et 800. Donc, en réalité, disons, au pif et sans dépenser d'argent, on pourrait dire qu'il y en a un demi-millier.
Ouais. On disait en 2021, en tout cas, l'Office français de la biodiversité, 624 individus estimés. En tout cas, c'est 8%, Farid Benhamou, de plus que l'année précédente. Donc, oui, la courbe est vraiment ascendante.
Alors, ce sont des estimations, il faut bien le préciser, pas un comptage, contrairement à ce qu'ont dit certains politiques. Ouais. Et 8%, oui, il faut noter que cette croissance de 8%, c'est une croissance qui est en baisse. Hein. Ça fait 2 années consécutives, voire 3 années consécutives que cette croissance est en baisse. Et on aura peut-être l'occasion de voir pourquoi cette croissance est en baisse.
Mais alors, du coup, comment on calcule leur nombre, Pierre Jouventin? C'est quoi les méthodes alors, pour essayer d'en avoir une idée?
Actuellement, on, d'une part, il y a des gens qui, dans la nature, des naturalistes qui cherchent où ils se trouvent et qui ensuite le font savoir à l'Office français de la biodiversité. Mais comme maintenant, il y a 20%, à peu près un cinquième des loups qui sont tués par une équipe spécialisée, donc les naturalistes pro-loups donnent de moins en moins d'indications parce qu'ils ont peur de se faire tuer leur loup. Mmh. Donc ça devient compliqué. En réalité, on est, je pense qu'il y a une erreur de 20 ou 30%. Hein. Donc en réalité, ils font leur travail, mais c'est très difficile à compter des loups.
De quel loup on parle précisément, Pierre Jouventin, pour la France métropolitaine, hein, toujours?
Eh bien, en réalité, en Europe, les loups augmentent partout puisqu'ils sont pas, ils sont plus tués, sauf en France. Donc, évidemment, ils arrivent de tout, par toutes les
mais,
frontières.
Mais quelle espèce, je voulais dire?
Ah, ben c'est toujours le loup classique, le loup gris, le loup commun, mais c'est la sous-espèce italienne. C'est-à-dire que c'est un petit loup qui fait 30 kilos, alors que les loups du Nord font 50 kilos.
Et des espèces de loups, il y en a beaucoup, Pierre Jouventin?
Il n'y a pas d'espèces de loups, enfin il y a ce loup-là, il comprend 20 à 30 sous-espèces, donc il est très varié.
Oui. Et alors, il arrive d'où ce loup français, là, Farid Benamou? Est-ce qu'on a réussi à avoir un petit peu sa trajectoire et sa provenance?
Bah oui, maintenant, ça fait déjà près de 30 ans que les loups sont en France, et ce sont des loups, comme ça vient d'être dit, qui sont de souche italienne. Bon, maintenant, ça fait plus de 30 ans qu'ils sont en France, et ils sont revenus naturellement par les Alpes du Sud. Ils sont passés par le nord de l'Italie, par les Alpes du Sud. Et là, maintenant, alors cette année, il y a eu une nouveauté, c'est qu'il y a un loup qui a été abattu, qui lui venait d'une souche d'Europe de l'Est. C'était une première, il a été abattu dans les Vosges, parce que en fait, les populations de Biélorussie, Pologne, avaient commencé à coloniser, il y a de ça une vingtaine d'années, mais d'Allemagne. Et donc, on a aussi un flux de population qui serait en train de venir de ce côté-là.
Et alors, on a vu évidemment quelques photos, et à chaque fois, ce sont des loups solitaires, c'est-à-dire que ce sont plutôt des individus comme ça, seuls, qui voyagent sur le territoire.
Oui, alors, quand on trouve un loup en Normandie, près de Saint-Nazaire, ce sont toujours des animaux solitaires, parce que ce sont ce qu'on appelle ces disperseurs. L'animal, il est sédentaire quand il est en meute, un groupe de 2 à 5 personnes. Donc là, il est sédentaire sur 150 à 350 km², ça dépend, mais en Europe, c'est cela. Et puis, il arrive un moment, comme la ressource alimentaire n'est pas illimitée, eh bien, des jeunes sont amenés à partir. Et ils peuvent partir tout azimut. Et c'est eux qui vont faire quelques dizaines, quelques centaines de kilomètres, voire des records à des milliers. Ouais. Et c'est cela qu'on découvre jusqu'au moment où ils vont trouver un partenaire du sexe opposé, où là, si les conditions écologiques le permettent, ils vont s'installer et refonder une meute.
Pierre Jouventin, c'est-à-dire que les meutes se déplacent très très peu sur de longues distances?
Oui, c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est la structure sociale du loup. C'est-à-dire que la forme normale sociale du loup, c'est la meute. Mais par contre, quand on tire dans une meute ou qu'elle devient trop importante, elle se scinde en états de meute, c'est-à-dire que les jeunes loups partent à l'aventure et ils font jusqu'à 70 km par jour, donc ils vont très loin. Et là, ils cherchent un nouveau territoire et un compagnon pour se reproduire. Donc ils font de nouvelles meutes.
Et vous dites qu'ils font 70 km par jour, ils passent par tous les endroits, un loup peut traverser, je sais pas, une autoroute par exemple?
Oui, tout à fait, parfois. D'ailleurs, souvent, il y a des loups en France qui l'ont écrasé parce qu'ils traversent des autoroutes justement, ou même des petites routes.
Et ils vont sur n'importe quel type de territoire, que ce soit des prairies, des montagnes, des bords de mer.
Théoriquement, les loups, au départ, étaient adaptés au milieu plat, c'est-à-dire aux plaines. Mais maintenant, comme en plaine, il y a de l'homme, et donc ils vont plutôt en montagne où il y a une déprise agricole.
En tout cas, de plus en plus de Français témoignent. Hein, ils ont aperçu des loups. D'ailleurs, Camille, vous aviez eu récemment un chasseur, Eric.
Eric dans le Calvados, qui
près
a
de
vu
Bayeux.
Un loup fin novembre.
Voilà, et on va écouter son témoignage.
Comme je suis chasseur, je regarde dans la plaine et j'aperçois le truc là, qui me semblait bizarre. Donc je m'arrête et j'observe. Je dis, mais c'est pas un chien, ça. Et il était arrêté, il me regardait. J'avais mon carreau d'ouvert et du coup, j'ai fait le bruit du loup. Aouh ! Aouh ! 3 fois, et il s'est tourné pour me regarder, et là, il était à 30 mètres ce coup-ci. Et il a continué sa route, comme si de rien n'était, hein. Pépère tranquille.
Voilà. Pierre Jouventin, est-ce que ça marche quand on fait le cri du loup? En tout cas, est-ce que l'animal réagit instinctivement?
Oui, tout à fait.
Ah bon?
Tout à fait. C'est d'ailleurs comme ça qu'on, généralement, les compte sur le terrain. Quand on les compte en laboratoire, disons, on récupère des crottes ou des poils, et par l'ADN, on voit si ce sont des loups différents pour arriver à différencier, donc, test toutes les individus. Mais par contre, quand on est sur le terrain, les gens, les naturalistes ou les techniciens font l'hurlement et le loup répond, et donc on peut savoir d'une part combien il y a de loups et quels âges ils ont, parce que les jeunes ont une voix différente. Donc en réalité, ça permet de confirmer la présence d'une meute.
Quel que soit le niveau d'imitation du loup ou pas, ou il faut un...
on a une petite marge.
Disons que il vaut mieux les imiter correctement, mais par contre, ils sont pas très sensibles, ils sont toujours prêts à répondre, parce qu'en réalité, cette meute, c'est cette ces hurlements, ça sert à se compter et à être propriétaire d'un territoire. Mmh. Donc ça veut dire aux autres, n'entrez pas, c'est notre terrain de chasse.
Mais donc ça veut dire que si j'imite le loup bien...
D'ailleurs, faites-le Camille, je vous en prie.
Je ne sais absolument pas imiter
mais
le
si,
loup.
Vous savez très bien le faire.
J'ai laissé Eric le faire tout à l'heure. Pierre Jouventin, ça veut dire qu'en fait, quelque part, on va l'induire en erreur, peut-être. Il va se dire, ah mince, il y a déjà quelqu'un d'autre, et donc en fait, on va l'obliger à se déplacer, alors que pas du tout, donc
non,
c'est pas très
sympa.
Non, il
ne se déplace pas. Simplement, il répond, croyant que c'est une autre meute ou un loup qui est garé chez eux, ils répondent en disant, n'entrez pas, sinon on vous attaque.
Ah. Et Farid Benhamou, c'est ça, donc c'est...
Ah oui, je confirme, d'autant que en fait, les loups disperseurs, quand ils arrivent sur le territoire d'une autre meute, peuvent risquer leur vie, hein, et ils peuvent être tués, en effet.
Vous imitez le loup, vous, Farid Benhamou?
Ça m'est déjà arrivé, mais je le fais plus.
Vous ne le faites plus, ouais. D'accord.
Mathieu, vous
bottez en touche. Pierre Jouventin, est-ce que vous imitez le cri du loup?
Non, pas spécialement.
Mais j'ai fait le waffling dans les Alpes, j'y suis allé avec les techniciens hein.
Vous pouvez arriver à les faire chanter en jouant de la clarinette.
Ouais. Justement, dans un instant, vous allez nous raconter dans quelles conditions vous avez adopté une petite louve avec laquelle vous avez vécu pendant 4 ans dans votre appartement à Montpellier. C'était évidemment à une époque et dans des conditions tout à fait particulières. On pourrait plus le faire aujourd'hui, mais vous nous expliquez tout dans un instant.
Olho pro cristalino corcovado e em silêncio grite bababá. Tudo esquisito, tudo muito errado, mas a gente chega lá. Tem muito atrito, treta, tem no âmbito, mas tem sertanejo, treco, pagodão. Ana Vitória, doce, beijo, donça, maravilha, Mendonça, afinação. Vai chegando que a gente vai chegar. Vê se rola, se tudo vai rolar. Só que sem samba não dá, sem samba não dá. Sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba.
Sem samba não dá, sem samba não dá. Sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba.
Sem samba, reja, pago, brejo, tem ferro, gente, glória, groove, Maiara e Maraíza. E
ouro. Sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba.
Tem Djonga com Rogério, tem Luz e Cabelinho. Tem Baca, Chuta, Blues, tem gente pra chuchu. Tem do David, Gabriel, Borel, Gabriel, Borel, Gabriel, Borel. Olho pro cristalino corcovado e em silêncio grita epababá. Tudo esquisito, tudo muito errado, mas a gente chega lá. Tem muito atrito, treta, tem muamba, mas tem sertanejo, trepa, pagodão. Ana Vitória, doce, beijo, donça, maravilha, Mendonça, afinação. Vai chegando que a gente vai chegar. Vê se rola, se tudo vai rolar. Só que sem samba não dá, sem samba não dá. Sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba.
Sam Samba Naoda, c'était Gaetano Veloso sur France Inter.
La Terre au carré sur France Inter.
Dans les steppes de l'Île-de-France, on les a vus rôder à la tombée du jour. La prudence la plus élémentaire impose de sortir en groupe et en armes. Dans l'épaisseur des fourrés, on les sent à l'affût. Dès que vient la nuit, les demeures isolées se transforment en autant de forts chabrols dont les occupants sont décidés à lutter jusqu'à la dernière chevrotine. Nos reporters, à leur tour, se sont mis en chasse. Dardés de téléobjectifs, ils se sont lancés sur la trace des animaux fabuleux. Nos reporters qui tenaient à garder leur place ont finalement trouvé un loup. Et d'ailleurs, ils ne furent pas les seuls. Un vrai loup. Il est en résidence forcée, en plein Paris, au Jardin des Plantes.
Ils avaient de l'humour aussi en 63 dans le journal des actualités françaises, dans les steppes de l'Île-de-France, Farid Benhamou. Eh ben, le loup, on le voit aux portes de Paris, en tout cas, aujourd'hui.
Oui, et j'ai envie de dire, et alors? Parce que c'est, ça étonne beaucoup les gens, et en fait, quand on connaît son comportement, c'est pas, d'une part, c'est explicatif, et en plus, c'est pas très grave.
Ouais. Est-ce que vous, pardon Camille, est-ce que vous avez croisé déjà un loup sauvage dans votre vie?
Oui, ça m'est déjà arrivé, alors j'étais en Finlande. Sinon, je les ai croisés déjà pistés en France, où je l'ai pas vu, mais en Finlande, oui, j'en ai déjà vu, oui.
C'est-à-dire, pour que tous les gens qui nous écoutent arrêtent d'en faire peut-être une histoire, mais le loup potentiellement est partout sur le territoire métropolitain?
Alors, il peut l'être. Il peut apparaître, mais il n'est pas installé. Là où il est vraiment installé, en meute productrice, c'est bien sûr toutes les Alpes, c'est dans l'est de la France, jusque dans les Vosges, dans le Massif central, principalement le sud, et un petit peu dans les Pyrénées, où il est présent depuis la fin des années 90. Là, il est vraiment présent depuis plusieurs années. Et puis, à partir de maintenant, on peut voir des individus surgir comme ça, un peu n'importe où en France.
Sauf qu'effectivement, Pierre Jouventin, l'individu qui a été vu aux portes de l'Île-de-France, il est peut-être probablement très très loin aujourd'hui, non? Ça marche tellement vite.
En réalité, un loup peut traverser l'Europe en quelques semaines et traverser la France en quelques jours. Donc on peut jamais savoir où il va arriver.
Ouais.
Et d'autre part, vous avez bien remarqué que les meutes sont fixées sur un territoire, alors que sitôt que les individus partent dans la nature, ils peuvent être n'importe où.
Pierre Jouventin, racontez-nous dans quelles conditions vous avez été amené à adopter un louveteau du zoo de Montpellier. C'était une autre époque, vous qui êtes éthologue, vous ne pourriez plus faire ça aujourd'hui.
Ben d'abord, c'est interdit et c'est pas plus mal, parce qu'en fin de compte, actuellement, on n'a plus le droit d'avoir des animaux sauvages chez soi. Alors qu'il y a presque 50 ans quand j'ai fait ça, d'ailleurs moi j'étais plutôt contre, parce que mon métier c'était d'étudier les animaux dans la nature et non pas dans des animaux en captivité. Et donc, c'est le directeur du zoo de Montpellier qui m'a téléphoné. Qui était copain avec moi, que je conseillais parfois, et qui m'a dit je suis obligé de piquer mes loups, de les euthanasier, parce que j'arrive pas à les vendre, alors qu'il y a une meute, une portée qui vient d'arriver. Et donc, il m'a dit, je sais que votre femme est une amoureuse des loups, et en effet, ma femme pleurait quand elle était petite, dans le petit chaperon rouge, le loup était tué. Donc, il m'a dit, je sais que vous êtes professionnel de la chose, donc c'est pas un problème pour vous d'élever un loup, est-ce que vous en voulez? Alors moi, j'ai eu la bêtise, si je puis dire, de le rapporter à ma femme et à mon fils qui avait peur des chiens. Et en fin de compte, on s'est retrouvé avec un loup à la maison.
Dans un appartement.
Un appartement. Alors ça, par contre, j'ai jamais vu d'autres cas. C'est très facile de lever un loup dans un enclos ou dans le jardin. Mais par contre, dans l'appartement, et on l'avait pas prévu, nous. Donc, j'étais en train de retaper une maison avec une clôture enterrée. Donc, je me disais, on va le mettre là dans quelques semaines ou quelques mois. Et puis, ça a duré 4 ans. Donc, on a eu pendant 4 ans un loup en appartement.
Et au bout de 4 ans, alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce pauvre loup?
Cette pauvre louve,
hein, c'est ça.
Oui, au bout de 4 ans, j'avais fait un enclos, à l'intérieur de l'enclos, j'avais fait un autre enclos, c'est-à-dire pour qu'elle puisse tourner autour de la maison, mais qu'elle soit plus dans la maison, parce que je voulais quand même recevoir un peu de monde tranquillement. Et donc, on l'a promenée d'abord, puis comme elle a fugué, et qu'on l'a perdue, on s'est dit, bon, on la sera plus parce qu'elle est trop dangereux, on ne sait pas ce qui peut arriver, donc on l'a laissée à l'intérieur. Et donc on promenait les chiens, mais on n'en sortait plus. Et donc elle n'a pas compris ce qui se passait, elle a essayé de franchir l'enclos, c'est-à-dire le grillage, et elle s'est accrochée, elle s'est pendue.
Ouais. Et vous racontez toute cette histoire dans votre livre, Le loup, ce mal-aimé qui nous ressemble, parce qu'évidemment, au-delà de cette fin tragique, il y a tout un pan scientifique qui vous a beaucoup intéressé dans la façon dont l'animal s'intégrait aussi auprès de vous. Mais vous dites bien que ça restait un animal dangereux quand même, hein.
Ben, un loup, ça peut vous casser un manche à balai, hein, donc avec les dents. Ça, si vous fermez une porte, c'est pas un chien. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a inventé le chien. Le chien, ce sont des loups sélectionnés pour être particulièrement faciles à vivre et moins dangereux. Donc en réalité, un loup, si vous le fermez la porte, eh bien, il est capable de vous abattre la porte. Donc c'est un autre monde. Donc ceci dit, ça vous oblige à comprendre ce qu'il veut. On peut pas rentrer en conflit avec un loup. Et donc, moi, je me suis dit, bon, ça m'apportera pas grand-chose, parce que c'est tellement artificiel dans l'appartement, que scientifiquement, je vois pas ce qu'on peut en tirer. Mais, involontairement, et là, c'était vachement original, c'est que, en élevant un loup en captivité et seul dans un appartement, on a créé une meute. Et donc, on s'est rendu compte que quand elle est devenue adulte, elle nous protégeait des dangers. Quand elle estimait qu'il y avait un danger, elle nous protégeait. Quand on se penchait au balcon, elle nous tirait par le pantalon. quand on allait se tremper, se baigner dans la baignoire, elle nous tirait par le coude pour nous sortir de l'eau. Quand on se penchait à la fenêtre, puisqu'on habitait au deuxième étage, elle nous tirait par la chemise. Donc, et où on a compris vraiment, et d'ailleurs chez un site à mon nom sur Internet, où je montre ces images, ces photos, quand ma femme en particulier se mettait à l'eau dans la rivière, l'héros qui donne son nom au département, eh bien, elle se jetait 10 fois de suite pour aller la chercher et la ramener à la rive.
Et la meute, c'était votre famille, hein. C'était vraiment la meute, c'était votre famille.
Ouais. Et c'est toujours inconnu. C'est-à-dire qu'actuellement, les professionnels du loup, qui n'existent quasiment pas en France, mais qui sont très nombreux aux États-Unis, au Canada, eh bien, ils n'ont jamais vu ça. Il faut être dans la meute pour le voir.
Une question de Pierre sur l'application France Inter. Il demande si le loup a sa place dans les systèmes anthropisés où notamment les ressources alimentaires sont limitées. Farid Benamou, est-ce que les loups comme ça solitaires qui se baladent à la recherche de nourriture finalement trouvent de la nourriture?
Alors d'une part, il faut voir que le système à l'heure actuelle et les milieux sont pas du tout limités pour le loup, puisqu'il suffit de voir les densités de grands herbivores et les loups ont largement de quoi se nourrir. Donc comme là on a des dynamiques des espaces ruraux où on a des espaces forestiers et autres, même si on a toujours une agriculture qui prend de l'espace, le loup a tout à fait sa place.
Et c'est un très bon régulateur en fait.
En plus, il peut contribuer en effet à réguler certaines espèces.
Il mange quoi principalement?
Alors, il mange principalement des grands herbivores, chevreuils, les cervidés. Il peut s'attaquer aux sangliers, mais plutôt les jeunes, hein, pas les gros pépères. En montagne, il s'attaque aussi aux chamois, mais il peut aussi manger plus petit, hein, des lièvres, des lapins, enfin, ce qu'il peut attraper. C'est un carnivore exclusif.
Ouais. Gilles demande s'il mange des renards, par exemple.
Ça peut arriver.
Qu'est-ce qu'a mangé votre louve, Pierre Jouventin, en appartement?
On s'était mis d'accord avec le boucher voisin, et donc il nous donnait tous les abats, et donc on la nourrissait comme ça. Mais en fin de compte, un loup, ça peut aussi manger des fruits. Hein.
Elle mange pas de croquettes.
Pendant l'été, c'est pas un carnivore exclusif. En réalité, quand il trouve des fruits, des raisins, par exemple, et puis il peut les manger. Donc il est très opportuniste.
Et
un peu comme un chien.
Et Bernard nous écrit, Pierre Jouventin, très contre nature, hein, cette adoption d'une louve, notamment dans un appartement. Donc on rappelle évidemment que si c'était à refaire, vous ne le referiez pas, bien évidemment.
Mais de toute manière, moi j'étais contre même à l'époque, puisque mon métier c'était d'étudier les animaux sauvages dans la nature. Hein. Ouais. Mais ceci dit, à l'époque, c'est-à-dire il y a bientôt 50 ans, personne ne soulevait le problème. C'est un problème actuel. À l'époque, tout le monde trouvait ça normal, alors qu'actuellement, évidemment, avec l'évolution sur la cause animale, les gens trouvent que c'est anormal, et moi je suis d'accord de toute manière.
Et cette louve, vous le racontez aussi, se mettait à hurler au balcon. On imagine les problèmes de voisinage pour vous à l'époque. En tout cas, c'est effectivement une époque totalement révolue que vous racontez dans cet ouvrage. On revient avec vous dans un instant et on verra évidemment ce que provoque la présence nouvelle du loup dans certaines régions et toutes les problématiques évidemment de cohabitation avec ce prédateur.
France Inter. La Terre au carré.
Et à 14h31, Camille passe au vert.
Et je ne sais pas s'il vous arrive de manger du poisson, mais si c'est le cas, et à moins que vous ne l'achetiez directement à votre pêcheur, savez-vous comment il a été sorti de l'eau?
J'avoue qu'en fait, je ne me pose pas la question de comment il a été pêché, et par qui, et tout ça, quoi.
Et pourtant, il y a moyen de le savoir, puisque la mention de la méthode de pêche est obligatoire, que ce soit chez le poissonnier ou en supermarché, où une méthode domine, industrielle, le chalutage de fond. Frédéric Lemanac est directeur scientifique de l'ONG Bloom.
En France, on a une très grande partie, peut-être 70% des poissons qu'on retrouve sur les étals de poissons sauvages, en excluant le saumon d'élevage ou la crevette d'élevage, qui va être pêché avec ce chalut de fond, puisque la grande distribution a besoin d'avoir un apport constant de la même espèce au même prix toute l'année. Donc c'est vraiment le chalut de fond qui va être privilégié par la grande distribution.
En particulier pour le cabillaud, le merlu, les langoustines aussi, toutes les espèces dites démersales, c'est-à-dire les espèces qui vivent sur le fond des mers et des océans. Mais cette méthode du chalut de fond, à ne pas confondre avec le chalut pélagique, celui de surface qui capture par exemple les sardines et les harengs, le chalut de fond donc est très critiqué, c'est peu de le dire, et cela depuis toujours.
Quand ça a été inventé au 14e ou 15e siècle, son utilisation était passible de la peine de mort.
Et ouais, ça rigolait pas parce que catastrophique pour les écosystèmes marins, et ce n'est pas dur à comprendre quand Nicolas Fournier de l'ONG Océana, cette fois, décrit le système.
On parle souvent du bulldozer des océans. C'est vraiment des engins immenses qui font plusieurs centaines de mètres, qui sont lestés. Donc on a des parties métalliques qui vont permettre de pénétrer dans les fonds marins pour racler le fond marin, pour récupérer toutes les espèces qui se trouvent sur leur chemin. Donc c'est vraiment très très peu sélectif. On a beaucoup d'espèces menacées ou protégées qui sont capturées. Jusqu'à 70% des captures ne sont pas des captures volontaires. C'est-à-dire qu'on va rejeter, mortes ou agonisantes, des espèces qu'on ne voulait pas.
Des requins, des raies, des dauphins, marsouins, phoques, tortues parfois, sans parler des habitats, les récifs, les rochers, broyés et balayés eux aussi. Et cela, magie de la législation, y compris dans les zones protégées. Eh oui, ces chalutiers gigantesques ont rien qu'en Europe labouré pendant 2,5 millions d'heures en 2020. Ça fait l'équivalent de 285 années. 2,5 millions d'heures dans les aires marines protégées, comme celle française des mers celtiques dans le golfe de Gascogne.
C'est dans les européennes qu'on retrouve les plus fortes intensités de chalutage au monde. Les aires marines protégées, malheureusement en Europe, c'est vraiment du greenwashing, on va dire, parce que on appelle ça des aires marines de papier, parce qu'elles sont désignées dans la loi, donc elles existent sur des cartes. Mais il n'y a aucune mesure de restriction, et c'est vraiment une aberration écologique, économique également, mais il y a également un élément nouveau qui est l'aspect climatique, parce qu'en raclant les fonds marins, on libère du carbone qui était séquestré, qui était stocké donc de façon permanente, et on le relâche dans l'océan. Et donc on ajoute comme ça, chaque année, une gigatonne de carbone dans l'océan, qui est l'équivalent plus ou moins des émissions de l'ensemble du secteur de l'aviation dans le monde.
L'ONG de protection des océans, Oceana, a donc lancé une pétition avec d'autres associations pour demander à l'Union européenne, qui sortira son plan d'action sur les milieux marins au printemps dans le cadre de sa stratégie de protection de la biodiversité à l'horizon 2030, lui demander d'inscrire dans ce plan l'interdiction du chalut de fond au moins dans les aires protégées, les aires marines protégées, et puis des restrictions aussi sur les bandes côtières, puisque l'activité menace également la pêche artisanale. 152 000 signatures pour la pétition, c'est plus que le nombre d'emplois que génère la pêche dans l'Union européenne, mais le poids politique est très fort. Explication avec Frédéric Lemanac de Bloom.
On a vraiment un lobby qui est extrêmement puissant et qui empêche tout changement au niveau politique. Et pourtant, on le sait, même en France, par exemple, en 2006, on a eu un rapport qui s'appelle le rapport Poséidon qui a été rendu au Premier ministre, qui disait clairement que l'avenir du chalut de fond était menacé, notamment à cause de sa consommation de carburant et de son impact sur les écosystèmes marins.
Les associations veulent faire pression alors que la consultation publique lancée par l'Europe s'achevait hier.
Aujourd'hui, on a vraiment cette méthode de pêche archaïque, destructrice, climaticide. Donc, on voulait exposer cette aberration et appeler à un peu plus de courage politique pour mettre un peu en accord nos principes de protection de la nature avec la gestion des pêches.
Mais l'un des plus grands spécialistes de la question, le professeur d'halieutique à l'Université de Colombie-Britannique à Vancouver, Daniel Poli, croit peu, lui, à une interdiction. Il a une autre idée.
C'est pas un but réaliste pour l'instant. Je pense qu'il faut passer par une autre dimension, savoir que le chalutage, c'est très cher au niveau du carburant. Ils utilisent beaucoup de fioul, justement parce qu'ils tirent un énorme machin derrière les bateaux. Et ces carburants, ils sont subventionnés. Donc, sans subvention, le chalutage, dans la plupart des pays du monde, il serait déficitaire.
Voilà, couper les subventions à gogo pour que l'activité, qui représente aujourd'hui 26% de la pêche dans le monde, ne soit plus rentable au profit d'autres méthodes viables et ayant moins d'impact sur les fonds marins. Il y en a 40 ans que Daniel Poli y travaille. Qu'est-ce qui vous fait tenir encore aujourd'hui là-dedans ?
La bêtise de ce qui se passe. On devrait arriver à parvenir à faire passer le message qu'on ne va pas tout foutre en l'air quand même. On ne sait pas si on va gagner ou pas, mais on est forcé de ne pas accepter ce qui se passe.
Ne pas tout foutre en l'air et ne pas accepter, même si les poissons, comme le dit Frédéric Lemanac, sont bas sur l'échelle de l'empathie, les conséquences pour notre vie sur Terre sont considérables. En attendant donc une éventuelle évolution législative, regardez bien les étiquettes et privilégiez les méthodes de pêche dites passives, comme la ligne, les filets ou les casiers.
Et c'était Camille Passauvert à réécouter, bien sûr, sur la page de la Terre au Carré.
Farid Benamou, cette méthode de pêche, vous la connaissiez ? Vous y êtes sensible ?
Oui, je suis sensible. Je suis aussi sensible au fait que l'Union européenne subventionne très largement ces pratiques-là. Et c'est purement scandaleux, d'autant qu'il y a même du greenwashing, c'est que parfois ça peut même passer pour de la pêche durable.
Oui, avec les labels qui cachent, évidemment, qui disent que c'est de la pêche durable alors qu'ils se servent de
ce chalutier. Donc il faut enlever les subventions, c'est par ça que ça commence ?
Déjà, oui, ça me paraît élémentaire, mais je crois que l'ONG Bloom essaye devrait à cela depuis plusieurs années.
Allez, on reparle du loup dans un instant. C'est le dossier de la Terre au Carré.
Te souviens-tu des heures que nous passions ensemble dans la douceur du soir, habillés de candeur? Qu'est-elle devenue cette robe légère que j'avais accrochée? D'autres se sont amassés. Quelle est donc cette douleur étrange, comme un nouveau poids sur l'existence. L'insouciance était telle que nous pensions ensemble soulever de nos mains le monde qui semblait éternel. Nos enfants seraient beaux, ils auraient devant eux de splendides chemins et à jamais le chant des oiseaux. Nous rêvions de tout dans tous les sens, sans souci du poids de l'existence. Quand nous avons marché, levé nos corps pour que le monde nous entende, nous avions foi en quelque chose. Se pourrait-il qu'un jour la beauté nous rassemble et nous emporte si haut qu'elle nous métamorphose, que nous puissions réunir en confiance, graver le poids fragile de l'existence.
De l'existence. C'était Émilie Loiseau.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
C'est en empruntant cette petite route de campagne que Marina François a eu la surprise d'apercevoir ce loup en pleine journée. Elle a le réflexe de le filmer.
Là, il était tout seul parce que je voyais rien autour et plus je me rapprochais, plus je pensais que c'était un chien. Après, la couleur, ça faisait pas le chien.
Qu'est-ce qui vous a fait penser à un loup? Sa démarche, sa...
Sa démarche, son corps, sa tête, la couleur aussi.
Il s'agit d'un loup gris. Sa présence a été confirmée par la préfecture de Charente.
Vous avez eu peur un peu?
Non, surprise d'avoir ça ici, justement, dans notre campagne.
L'animal aurait quitté sa meute. Le loup peut effectuer plusieurs centaines de kilomètres avant de se fixer.
Ça, c'était il y a 2 ans tout juste, le loup en Charente, France 3, Nouvelle-Aquitaine, qui nous en faisait part. Et nos invités pour en parler, l'éthologue Pierre Jouventin et le géographe Farid Benhamou. Farid Benhamou, est-ce que, comme dans ce cas, la présence nouvelle du loup dans une région qui n'était pas habituée à le voir, nécessite de prendre immédiatement des mesures?
Oui, bien sûr. Et là, ce n'est pas toujours le cas où on met beaucoup de temps à réagir. L'anticipation, c'est vraiment la clé de la cohabitation, parce que si on ne met pas en place en amont un certain nombre de mesures...
Par quoi, par exemple?
Des mesures de protection, ne serait-ce que, par exemple, commencer à diffuser des chiens de protection, ou bien réfléchir sur les clôtures, ou même réfléchir même au mode d'élevage. Si on ne fait pas ça, eh ben, on risque d'avoir des déconvenues.
Mais comment on s'organise avec des animaux très mobiles, tels que vous les décriviez tout à l'heure, capables de parcourir des dizaines de kilomètres et donc de changer potentiellement aussi de région?
Oui, mais de toute manière, à l'heure actuelle, c'est toute la France qui risque d'être concernée. Donc c'est même dans toute la France, ces animaux risquent de ne plus être mobiles et de s'installer. Alors, il faut bien savoir que les loups mangent très majoritairement de la faune sauvage. Hein. C'est-à-dire 70 à 80% de leur alimentation, c'est la faune sauvage. Et une meute constituée va privilégier la faune sauvage. Mais elle peut aussi s'attaquer à des animaux domestiques. Et c'est sur cette marge-là qu'il faut travailler.
Et Pierre Jouventin, des attaques sur l'homme, on n'en a absolument pas vu hein, ces dernières décennies.
Il y a depuis 40 ans en Europe qu'on a des renseignements précis, il n'y a jamais eu d'attaque d'un loup sur l'homme. Par contre, des attaques des morsures de chiens, il y en a des dizaines de milliers par an, donc ça n'a rien à voir.
Comment vous expliquez d'ailleurs, Pierre Jouventin, vous parlez dans le titre de votre livre du loup, ce mal-aimé, comment vous expliquez à la fois la fascination d'un côté pour le loup et la détestation aussi de l'autre?
Ben, il y a deux civilisations, c'est-à-dire qu'avant, les chasseurs-cueilleurs qui n'étaient pas en compétition avec le loup, qui étaient eux aussi des exploiteurs de la nature d'une manière extensive, eh bien, ils côtoyaient le loup, ils voyaient comment il était, ils étaient surpris par son intelligence et ses capacités sociales, et donc ils en arrivaient à l'admirer, et souvent il était vénéré comme un dieu. Alors qu'à partir du moment où on est devenu fermier, c'est-à-dire il y a 10 000 ans au néolithique, eh bien là on s'est trouvé en compétition, que ce soit pour la chasse ou comme fermier, comme éleveur, on était embêté par les loups. Donc évidemment il y a eu une rivalité, mais maintenant c'est en train de changer, c'est-à-dire qu'actuellement il y a quand même dans les demandes auprès des gens, les sondages, on a quand même 80% de gens, de Français, qui sont pour la cohabitation. Donc il faut quand même revenir sur terre.
Alors il y a évidemment des éleveurs qui rencontrent un certain nombre de problèmes. On va en parler dans un instant. Farid Benhamou, vous êtes juste à l'origine d'une pétition publiée en novembre dans Libération qui appelait une cohabitation durable et apaisée avec les grands carnivores et la faune sauvage d'ailleurs en France. C'est quoi l'origine de cette pétition ?
À l'origine de cette pétition, c'est une louve qui a été pendue de manière macabre à la mairie de Saint-Bonnet-Champsaur dans les Hautes-Alpes, qui est une louve qui a été tuée illégalement, mais c'était aussi pour dénoncer la politique actuelle qui légitime cette violence illégale par une violence légales, qui sont les tirs légaux, qui sont des tirs de régulation, qui pour moi n'œuvrent pas à une vraie cohabitation parce qu'on n'investit pas assez dans de la recherche et dans de l'innovation.
C'est quoi la politique sur ces tirs légaux alors ? Est-ce qu'il y a un nombre de tirs autorisés par an ?
À peu près sur les 600 loups qui ont été répertoriés, à peu près c'est plus de 20%, hein, c'est-à-dire c'est plus d'une centaine de loups qui sont autorisés au tir. Officiellement, c'est un plafond. C'est-à-dire que normalement, c'est un maximum qu'on peut atteindre, mais qu'on n'est pas obligé d'atteindre. Et au final, en fait, c'est un quota. C'est-à-dire que, en fait, on donne la part du loup au monde de l'élevage et de la chasse. On n'a pas en France une vraie politique, si vous voulez, de réduction des dommages. On a une politique de réduction de la population de loups. Et c'est pas ça qui inscrit une cohabitation durable.
Et on rappelle, Pierre Jonventin, que le loup est une espèce protégée, hein?
Tout à fait, il est complètement protégé au niveau européen et au niveau français. Mais il y a tellement d'exceptions au niveau français que ça ne signifie plus rien.
Alors, message de Philippe sur franceinter.fr. Le loup revient, il est là dans l'Isère, dit-il, depuis déjà plus de 15 ans. Je sais que beaucoup d'éleveurs sont remontés contre sa présence. Pourtant, ici, s'il modifie les pratiques d'élevage, c'est un pourvoyeur d'emplois non négligeable pour les éleveurs qui peuvent employer des bergers pour garder les troupeaux. Et les aides sont substantielles pour moi, dit-il. C'est 7000 euros cette année. Et on a un autre message qui nous dit, dommage que les débats autour du loup soit toujours axé sur la cohabitation et pas sur les conditions de travail des bergers. Une meilleure rémunération ne rendrait-elle pas les contraintes du métier, dont le problème du loup, plus supportable? Qu'est-ce que vous en pensez,
Farid? Tout est lié, en fait, parce que la condition de la cohabitation, c'est que les personnes qui travaillent et qui sont confrontées aux contraintes puissent le faire dignement. Il est clair que c'est une remise en cause d'un système. Mais de toute manière, tous nos systèmes, avec le changement global, sont remis en cause. Alors, en plus, les agriculteurs ont l'habitude, depuis ces dernières décennies, à voir leurs pratiques évoluer. Et c'est vrai que le loup questionne notre rapport à la nature et notre rapport au milieu. Et même si il y a des contraintes qu'il ne faut absolument pas nier, qui sont tout à fait réelles, mais je pense que c'est aussi un objet de réflexion pour pouvoir mettre en place des systèmes qui seront durables.
Pierre Jonventin, comment on entend la voix justement des éleveurs victimes de ces loups et qui en ont vraiment ras-le-bol de cet animal, on peut le comprendre?
Oui, mais il faudrait peut-être remettre aussi les pendules à l'heure, c'est-à-dire qu'avant l'arrivée du loup, c'est-à-dire 92, déjà la filière ovine avait des problèmes. Elle n'a jamais été compétitive par rapport à la compétition extérieure, internationale. D'autre part, il y a des problèmes qui sont bien plus graves. Par exemple, quand il y a eu le Rainbow Warrior qui a été coulé par les services secrets français en 1985, eh bien, l'État français a été obligé, d'une part, de rembourser le Rainbow Warrior à Greenpeace, et d'autre part, de donner des avantages au gouvernement néo-zélandais, et en particulier de supprimer les taxes sur la viande ovine. Et donc, évidemment, maintenant, vous allez dans n'importe quel supermarché 50 ans après, eh bien, vous voyez que au rayon surgelé, ce sont de la viande congelée néo-zélandaise. Donc, il faudrait voir plus loin. D'autre part, les problèmes des loups, c'est en réalité, il y a un impact minime sur les moutons. Il y a de l'ordre de 0,01%. Alors que dans le transport des moutons, des brebis, il y a 4% de morts. Donc, il faut revenir sur terre. Il faut quand même aller voir les choses. Alors, bien évidemment, on va pas taper sur les éleveurs, mais les éleveurs, il faut voir aussi que c'est hétérogène. Il y a des gros éleveurs et des petits éleveurs et des petits éleveurs qui arrivent même pas à récupérer. L'État aide beaucoup, hein.
Oui, mais alors justement, d'argent. Pierre Jouventin, Dominique à ce sujet nous écrit, elle est éleveuse, elle dit justement arrêtez de dire qu'ils sont indemnisés, ce n'est qu'une partie des compensations au regard des pertes réelles. Elle nous écrit qu'elle est propriétaire d'une zone Natura 2000 où elle a clôturé 12 hectares, elle y a installé des brebis et le 12 novembre dernier, deux loups identifiés par ADN ont tué ces brebis. Dominique pose cette question, quelle biodiversité protégée ? Farid Benhamou.
Eh ben, il est clair que là, en l'occurrence, on a un système qui est difficilement protégeable. Mais au cas par cas, on a les mesures comme le chien de protection, les clôtures qui peuvent soit très bien marcher, soit moyennement marcher, soit pas suffisamment marcher. Et dans ce cas-là, il faut trouver autre chose. Il y a, et c'est pour cela que je milite activement pour qu'il y ait de l'expérimentation locale, ce qui n'est pas assez fait.
C'est-à-dire qu'il faut aussi payer de la science là-dessus.
Hein, complètement.
Pour bien comprendre l'animal. Et les interactions
vous avec avez par exemple l'équipe de Jean-Marc Landry qui est un expert indépendant, il n'est pas suffisamment aidé selon moi, c'est un Suisse qui vit en France, il fait un travail remarquable, il étudie les comportements des loups, des chiens de protection, des brebis filmées, et ça c'est ce qui fait progresser les choses.
On va écouter le message vocal de Manon qui vient de nous appeler de Mende.
Bonjour, je me dis, si d'autres pays arrivent à cohabiter avec le loup, pourquoi pas nous ? Certes, tout n'est pas comparable d'un pays à l'autre, les fonctionnements sont très différents. Mais on pourrait retirer les bonnes choses des autres pays voisins. Bonne journée.
Voilà, Pierre Jouventin, un pays comme l'Allemagne, par exemple, concerné aussi par le loup, est-ce que la législation est différente ? Est-ce que la situation est meilleure dans les
tout
relations
avec l'Allemagne ? En Allemagne, par exemple, on nous donne l'argent parce que l'État français comme l'État allemand dédommage au maximum, mais la différence, c'est qu'en Allemagne, on va voir si les moutons sont bien gardés, avant de donner la subvention, alors qu'en France, on ne le fait pas.
Et un peu plus loin,
aux
États-Unis.
Et donc, en réalité, il y a des abus en France. Il y a des grands, des gros, les petits éleveurs qui ont un mal fou à s'en tirer, qui sont parfois obligés de s'arrêter à cause du loup. Et puis, il y a des gros éleveurs qui mettent plusieurs milliers de moutons à la fois sur les pâturages et qui les foutent en l'air complètement. Donc, c'est pas du tout du pastoralisme. Et par contre, ces gens-là, ils gardent très peu leurs moutons. Et ce qui fait qu'ils touchent beaucoup d'argent. Et dans la mesure où vous avez un secrétaire et quelqu'un qui remplit les papiers et une trésorerie suffisamment forte pour attendre plusieurs mois le remboursement, eh bien vous en tirez. Donc c'est plus compliqué que ça n'a l'air. D'autre part, il y a quand même 20%, d'après les statistiques, 20% des élevages qui concentrent, 60% des attaques. Donc ça veut dire qu'il y a des éleveurs qui gardent mal leurs moutons.
En tout cas, si les éleveurs nous entendent, ils peuvent réagir en ce moment même sur l'application France Inter parce qu'on a aussi envie d'entendre vos voix.
Et un petit peu plus loin, Pierre Jouventin, aux États-Unis, je disais, il y a aussi des résultats. Alors est-ce qu'ils peuvent être comparables, enfin est-ce que ça pourrait être comparable avec une situation en France et en Europe ou pas ? Parce que je crois qu'il y a aussi de bons résultats sur la présence du loup aux États-Unis.
Ben justement, si j'ai fait ce livre-là récent, là, le premier livre c'était sur l'histoire de Kamala, une loup dans ma famille, donc c'était l'histoire qui nous est arrivée, l'histoire de fou. Ouais. Et puis après, le livre que je viens de faire, le loup, ce mal-aimé qui nous ressemble, là, c'est fait pour donner l'état des connaissances scientifiques actuelles. Alors depuis 10 000 ans qu'on est sur le loup, on raconte des bêtises, on raconte des légendes, on tire des loups, par exemple, pour les fixer, alors qu'un loup, ça peut faire des centaines de kilomètres. Il faut voir aussi que le loup pose des problèmes depuis 92, mais avant, l'élevage bovin avait déjà des problèmes, et il était déjà financé.
Sauf que Pierre Jouventin, vous racontez, par exemple, aux États-Unis, à Yellowstone, il y a eu toute une étude qui a été faite autour du loup, qui a d'ailleurs montré que les loups étaient plutôt des animaux écologiques plutôt que nuisibles. Or, ça n'a rien changé, au fond, à l'image de cet animal.
Pas du tout, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'actuellement, il faut raconter quand même l'histoire du Yellowstone. Yellowstone, c'est le premier parc national mondial, un siècle avant le premier parc national français. Et là, au début, on a cru en bon fermier que pour aider les herbivores, il fallait tuer les loups. Donc ils ont zigouillé tous les loups de Yellowstone. Et puis ils se sont aperçus qu'au contraire, il y avait des épidémies, il y avait du surpâturage. Et donc ils ont refait venir des loups, ont introduit des loups. Maintenant, il y a une centaine de loups en 10 meutes qui sont observés par les gens qui viennent et l'argent que ça rapporte, c'est 30 millions d'euros par an, c'est-à-dire exactement ce que coûte le loup directement en France comme remboursement. Donc là, c'est en positif et on s'aperçoit en fin de compte que le loup est écologique, c'est-à-dire que quand il est revenu, il a un effet vétérinaire, c'est-à-dire qu'il tue les animaux les plus faibles, c'est-à-dire les malades, les plus vieux, et donc, en fin de compte, il évite les épidémies. D'autre part, il oblige les animaux à surpâturer moins, c'est-à-dire à s'éclaircir, à partir un peu dans tous les sens, et donc la végétation arrive à revenir. Et ça permet aux animaux et à la flore et à la faune de se reconstituer. Donc le bilan, c'est qu'actuellement, le retour des loups a été bénéfique à l'écosystème entier à Yellowstone. Donc en réalité, le loup n'est pas une calamité comme on le croyait au départ, mais c'est la clé de voûte, c'est ce qui structure tout l'écosystème.
Ça n'a pas empêché Trump de rallumer finalement la guerre du loup, c'est ça que je voulais dire.
Actuellement, ils sont bien embêtés parce que Trump, avant de partir, a encore laissé un cadeau empoisonné, c'est-à-dire qu'un mois avant les élections présidentielles, il a supprimé la protection qu'il y avait sur le loup aux États-Unis. Et maintenant, ce sont les gouverneurs de chaque province qui se débrouillent. Ouais. Et certains introduisent des loups, les font venir chez eux, et la plupart donnent la possibilité aux chasseurs de tirer. Ouais. Donc ils font des quotas. Donc on en arrive au système français. Ouais. Et il faut voir que le système français, il est unique en Europe.
Pour compléter. Ouais.
En effet, il n'y a pas qu'en France où il y a des éleveurs qui sont mécontents. Aux États-Unis aussi, en Italie aussi, et des éleveurs qui veulent faire aussi la peau des loups. Ça existe partout. Ça.
Allez, on se retrouve dans un instant. Beaucoup de messages pour vous sur le loup.
Bon. Baiser d'ici, des bêtes de Sibérie, petits zombies, les dépasser, à s'embrasser, c'est tout passé. Bon, baiser d'ici, soviétique érotique, tactique toxique, zombie joli, baiser magique, cœur sibérique. Secret glacé, secret sucré, cet espionnage. Secret glacé, secret sucré, sous-marin soviétique. Secret glacé, secret sucré, d'un baiser codé. Top secret, bon baiser, discret. Bon baiser d'ici, des peines de Sibérie.
Alain Chamfort sur France Inter. Encore quelques minutes pour parler du loup avec Pierre Jouventin et Farid Benhamou. Farid Benhamou, la suite de votre pétition, qu'est-ce que ça a donné alors concrètement?
On est déjà à 45 000. On est déjà à 45 000. Et puis, nous, ce que l'on aimerait instaurer, c'est une fois avoir critiqué, on aimerait pouvoir réfléchir à un autre mode de gestion, essayer d'influencer les pouvoirs publics qui ont une gestion un petit peu hors sol, c'est-à-dire qui n'est pas différenciée, qui est plaquée et puis qui répond juste à certains groupes de pression, principalement agricoles et cynégétiques, qui eux-mêmes, parfois, ne sont pas en adéquation avec sur le terrain, où on a des initiatives qui sont tout à fait intéressantes, y compris chez les éleveurs.
Allez, il nous reste 1 minute 30.
Emmanuel, justement, nous écrit, il est berger, le loup est souvent cité comme un fléau, mais aujourd'hui, des solutions, dit-il, existent qui demandent du dialogue entre les associations de protection et les éleveurs éleveuses, avec des rotations, des mobilisations de chiens de protection et une rémunération digne. Le loup comme l'ours ont toujours été présents. Il faut faire avec, c'est comme la pluie. Et Élise, vous parliez de cynégétique, Farid Benhamou. Élise demande si on limitait la régulation par les chasseurs pour laisser les loups faire le boulot. Est-ce que finalement les loups rentrent en concurrence avec les chasseurs?
Alors, disons que les loups prélèvent beaucoup moins que les chasseurs. Ça, c'est sûr, hein, que ce soit la faune sauvage ou même les hommes. Mais bon, c'est un autre débat. Oui, de toute manière. Pierre l'expliquait tout à l'heure, Pierre Jouventin, c'est que les loups ont une influence sur les herbivores. Et donc, sur la manière dont ils impactent la forêt. Il y a certains endroits, à cause des sangliers ou à cause des cervidés, il y a des gros problèmes de régénération de la forêt. Quand les loups sont là, on n'a plus ces problèmes-là.
Pierre Jouventin, ce sera peut-être le mot de la fin, mais il faut essayer de valoriser au maximum le rôle écologique des loups dans nos sociétés aujourd'hui.
Oui, d'autant plus qu'en réalité, c'est pas sans solution. La France est unique. En Italie, en Espagne, il y a bien plus de loups. Il y a 2 à 4 fois plus de loups. Mais ça se passe très bien. Pourquoi? Alors qu'on tue plus de loups en Espagne et en Italie. Pourquoi? Parce que simplement, on applique les règles. Il faut un tripode, une clôture, si possible électrifiée, des bergers et des chiens de protection, comme les patous.
Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Pierre Jouventin, ce livre, Le loup, ce mal-aimé qui nous ressemble, c'est chez Humaine Science. Et puis Farid Benhamou, merci de votre venue. La pétition est toujours en ligne pour
tout
ceux
à fait.
Qui souhaitent la citer. On va sur le site de Libération.
Sur Libé, mon blog de Mediapart. Et vous trouverez toutes les informations.
Merci beaucoup. Et puis j'invite les éleveurs, comme d'ailleurs les autres membres de notre population, à laisser des messages sur le répondeur de La Terre au Carré. On poursuit le dialogue autour des loups au 01 56 40 45 45.